invité, une playlist, un mercredi soir sur deux, 20h-21h, Tour de Piste est sur Principe Actif.
Bonsoir et bienvenue dans une émission qui ce soir va vous raconter l'histoire d'une Amérique alternative à travers le groupe REM. Formé à Athènes en Géorgie à la toute fin des années 70, ils sont passés en 10 ans de la célébrité locale à une reconnaissance internationale. Thierry Jourdain, auteur d'un ouvrage à leur sujet intitulé REM et sous-titré Remember Every Moment, est mon invité ce soir pour dérouler du parcours de ce quatuor américain. Et ce sera une émission à 3 voix puisque Thierry est accompagné de Yann Lafosse, alias My North Eye, qui nous interprétera quelques reprises de REM en live en cours d'émission. Thierry et Yann, bonsoir à tous les deux et merci d'être à nouveau à mes côtés.
Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Alors ton livre Thierry sur REM est paru en février de cette année. Quel était le point de départ de son écriture?
REM, c'est un peu le fil rouge de ma vie. C'est un des premiers groupes que j'ai suivi, que j'ai écouté en fait tout jeune. Et j'avais envie en fait de d'écrire sur un groupe, mais pas que en fait, parce qu'à travers eux, ils ont traversé les 4 membres ont traversé 3 décennies, et du coup c'était aussi l'occasion de parler de plein d'autres choses que le groupe lui-même, de l'Amérique, de la politique, des États du Sud aussi, de l'État du Sud des États-Unis, Athènes en Géorgie, la petite ville dont ils sont originaires. Donc à travers eux, ça me permettait aussi de parler d'influence, donc voilà, de brasser beaucoup plus large que REM simplement. Et puis j'ai mis du temps pour l'écrire. C'était le deuxième ouvrage que j'avais commencé en fait juste après le Springsteen en 2017, et il m'a fallu 5 ans pour l'achever. Donc ça m'a accompagné aussi tout au long de l'écriture de tous les autres livres en fait. C'est le 9e publié, mais c'était le 2e commencé. Donc voilà, je trouvais ça plutôt intéressant. Et puis ça m'a aussi renforcé dans ma manière d'aborder ce groupe en fait, finalement, qui a eu une carrière assez compliquée, assez atypique, assez inédite aussi, et qui a splitté en 2011. Donc voilà, et comme j'étais assez fâché en 2011 quand ils se sont séparés, du coup ça m'a un peu réconcilié aussi avec mon groupe préféré de l'époque.
Merde. Alors t'as écrit, c'est ton 9e livre, hein.
Oui.
T'as écrit, on peut en citer quelques-uns, Miossec, une bonne carcasse. Il y a eu un livre sur Slowdive qui est sorti, sur Shockboard et Troy Van Balthazar, sur Dominica en collaboration avec Pierre Lemarchand et beaucoup d'autres. Oui. Écrire d'autres livres pendant qu'on en écrit un, ça présente quelle particularité?
Et ça permet de se ressourcer aussi, parce que j'y tenais vraiment à ce livre sur REM. Il a été assez dur parce que, comme je le disais, c'est un groupe qui m'a accompagné pendant beaucoup de temps, et quand on met beaucoup d'affect à quelque chose, c'est encore plus difficile d'écrire parce qu'on a moins de recul. Et puis on veut tellement bien faire que des fois, comme dans un couple, on fait mal. Donc il a fallu du temps en fait. Il a fallu apprendre une certaine méthode d'écriture, et puis du coup, hors antenne, voilà, tu me disais qu'il était un petit peu différent des autres livres que j'ai pu écrire, et justement, les autres livres, ils ont servi à pouvoir faire celui-là.
Alors, avec qui tu l'as construit, ce livre, sur quel document tu t'es appuyé pour le rédiger?
J'ai utilisé vraiment les 5 ans dont je parlais pour lire, écouter, voir tout, je pense, ce qui a pu être fait. Tourné, écrit, produit sur REM en fait. Donc la presse étrangère, les autres ouvrages en Angleterre, en Amérique ont pu être déjà faits sur eux, en me disant que c'était pas ce que je voulais moi faire en fait. Je voulais quelque chose de plus personnel. Tous les documentaires, toutes les interviews, radio, presse, télé, revoir des concerts, écouter tous les disques. Donc j'ai vraiment parcouru tout ce qui était possible, imaginable sur ce groupe. Et puis aussi ça m'a permis ces 5 années d'interviewer une trentaine de personnes, dont les membres originels, quoi. Donc les 4 membres, et il m'a fallu 5 ans vraiment pour les avoir tous. Donc c'était un parcours du combattant, assez costaud, mais du coup essentiel pour le livre.
On va parler de cette ville d'Athènes, justement, dans laquelle le groupe s'est assemblé. Elle se trouve en Géorgie, donc dans le sud des États-Unis, comme tu le disais tout à l'heure. Quelles sont les particularités de cette ville pour la scène rock à la toute fin des années 70, au début des années 80?
C'est avant tout une ville universitaire, donc très dynamique. C'est une petite ville, hein, en Géorgie, mais dont quasiment la moitié de la population en fait était des étudiants, et c'est une des plus grosses universités d'art en fait du sud des États-Unis, ce qui fait que ça a développé vraiment un vivier assez inédit en fait, artistique et où tous les groupes en fait faisaient à la fois de la peinture, faisaient de la photo, faisaient de la musique. Chacun nourrissait les projets de l'autre, chacun se supportait, se soutenait. Donc il y avait une véritable effervescence et une scène très forte, très soudée à cette époque-là. Et puis à l'époque aussi, il y avait les radios des universités, les college radio qui avaient vraiment leur programmation à part entière en fait, avec leur salle de concert, avec leur programmation, leur playlist, et qui vraiment ont permis de faire que REM en fait a pu sortir dehors des frontières d'Athènes, de Géorgie et après des États-Unis.
Alors on va parler de la rencontre entre deux des quatre musiciens de REM. Elle se fait comment, cette rencontre entre Michael Stipe, donc le chanteur, et Peter Buck, le guitariste?
Elle se fait entre deux jeunes garçons timides, introvertis et passionnés de musique. Peter Buck avait arrêté ses études et en fait travaillait dans un magasin de disques indépendant et dans lequel allait régulièrement Michael Stipe en fait. Et ils se sont rencontrés, alors je crois comme beaucoup d'auditeurs de l'émission en fait, à travers des passions musicales communes. Peter Buck conseillait certains disques à Michael Stipe et voilà, ils se sont retrouvés sur Patti Smith, sur Velvet Underground, sur David Bowie. Et très vite, c'est les affinités musicales qui ont permis en fait de parler d'autres choses et avoir envie de jouer de la musique ensemble.
Mais c'est souvent à cette époque-là, parce que bon, le disque a connu une crise majeure, les disquaires étaient des lieux d'incubation pour les groupes. Là, on a un parfait exemple avec ça, il y en a beaucoup d'autres. De quelles influences alors s'inspire finalement leur premier titre au tout début du groupe?
Alors c'est vraiment le post-punk qui a nourri en fait la plupart des compositions du groupe au début. Et également une certaine musicalité très pop, très folk en fait, comme les Birds ou les Beach Boys en fait, pour Peter Buck, qui a vraiment nourri son jeu de guitare voilà, à travers ces deux groupes. Et puis il y a tout ce qui est le rock dit un peu plus alternatif, comme les Talking Heads, comme Television en fait, qui a aussi nourri une manière de composer, d'écrire, de comprendre la musique. Je parlais du Velvet Underground de Patti Smith aussi, qui ont été vraiment fondamentaux pour les quatre membres du groupe. Ouais, vraiment.
Alors, je propose qu'on fasse une première pause musicale avec My North Eye qui va nous reprendre non pas un titre de REM, mais un titre du Velvet Underground. C'est Pale Blue Eyes, My North Eye, dans l'émission Tour de Piste en live.
Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy, but mostly you make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. I thought of you as my mountain top. I thought of you as my peak. I thought of you as everything I had but couldn't keep. I had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. You linger on, you linger on, you linger on. You linger on, you linger.
C'était à l'instant Yann Lafosse, alias My North Eye, qui vient nous interpréter une reprise du classique du Velvet Underground, Pale Blue Eyes. C'est le Velvet, c'est une ADN qu'on retrouve dans beaucoup de groupes de la scène rock indé, notamment le groupe R.E.M.
Ah ouais, sinon je peux dire que c'est une chanson que R.E.M. a repris également. Ils ont repris 4-5 titres du Velvet Underground, dont cette chanson-ci à leur début.
Qu'est-ce qui distingue, d'après toi, R.E.M. des autres groupes de la scène indépendante du moment?
Alors l'écriture, avec Yann et donc et Thomas Del Strange, des fois on fait des rencontres comme ça un peu dans toutes sortes de lieux, et puis on essaie de réfléchir un peu aussi à la manière de présenter la chose et le groupe, et l'un comme l'autre, Thomas et Yann participent un peu à la réflexion, et on en parlait sur l'écriture. Donc il y a une écriture qui est assez atypique en fait, qui était assez difficile d'ailleurs à comprendre et analysé dans le livre. Du coup, c'est pas ce biais-là dont j'ai voulu parler dans le livre, mais c'est ce qui fait la particularité de ce groupe. Vraiment cette écriture de Michael Sapp avec des mots pas forcément compréhensibles, avec plus des sonorités, des ambiances, des ressentis, plus que vraiment un songwriting comme on pourrait parler pour Bob Dylan ou d'autres chanteurs folk ou country de l'époque ou avant et après quoi. Du coup on est plus dans l'émotion, dans la sensibilité, et puis dans la musique. Après il y avait une base vraiment plutôt comme on a pu le dire tout à l'heure, plutôt post-rock, mais vraiment ce qui fait la différence, je pense, et pour beaucoup de groupes, c'est cette voix de Michael Stipe, cette voix hyper chaude, très atypique en fait, et tout de suite quand on écoute un morceau, c'est ce qui fait le lien quoi.
Je peux intervenir aussi, je pense. Ah bah oui, que quelque chose dont Thierry parle aussi et qui le touche particulièrement, enfin qui lui parle particulièrement et par rapport à R.E.M., c'est le fait que c'est vraiment un groupe qui correspond à quatre personnalités qui sont mises sur le même niveau, au niveau de l'écriture des chansons, même si on peut imaginer que Stipe écrit les paroles et que il y a certains moments c'est Buck qui écrit la musique, ou même le batteur ou le bassiste, c'est toujours les quatre membres du groupe qui sont crédités, et c'est assez unique, je pense, dans l'histoire du rock et dans l'histoire du post-rock évidemment, mais non, tu peux en parler un peu plus.
Oui, c'est ça, c'est que dès le début en fait, ils ont tenu à faire une répartition totalement égale entre les quatre, ouais. Quelle que soit la participation de l'un ou de l'autre, il y avait des fois où le batteur ne participait même pas à l'enregistrement en fait, où c'était une boîte à rythme, ou par moment le bassiste écrivait rien, ou etc. Et ils étaient crédités un quart systématiquement dans l'ordre alphabétique, voilà. Berry, Buck, Mills, Stipe, quoi ouais. qu'il advienne, sans distinction des paroles ou de la musique, sans distinction de savoir qui faisait quoi, pour que chacun gagne exactement la même chose dès le début jusqu'à la fin.
On parlait tout à l'heure de Peter Buck, qui est un fan de disques obscurs. Il était donc comme tu le disais tout à l'heure, disca. Et ces particularités, elles vont laisser quelle marque sur leur musique?
Alors déjà, chacun des quatre membres avait ses propres influences, même s'ils se retrouvaient comme on a pu le dire sur des artistes communs. Chacun avait ses propres influences. Du coup, ça fait un espèce de mélange hybride assez atypique
et inédit,
ouais, c'est ce qui fait qu'aucun album finalement ne ressemble à l'autre. Par moment même au sein d'un même album, finalement, il n'y a pas tellement de cohérence. Donc tout à l'heure quand je disais c'est la voix qui fait le lien, c'est vraiment cette voix de Michael Stipe en fait qui fait la différence avec tous les autres groupes. Et puis en termes d'influence, il y en a mais vraiment énormément. Il y a Wire, j'aurais pas forcément tout en tête, mais il y a Neil Young pour les plus connus, et Peter Buck en fait commençait vraiment les premières compositions par de l'improvisation en fait, de la même manière que Michael Stipe en fait finalement déclamait des paroles dont il n'avait pas forcément réfléchi au préalable avant l'enregistrement. Il y a vraiment un côté très instinctif, instantané sur les premiers enregistrements, sur les premières chansons.
Je pense que à l'époque quand on interviewait des groupes, ils ne parlaient pas en termes d'influence. Aujourd'hui, ils disent, les groupes disent « je suis influencé par ça, je fais tel, tel type de musique ». Les groupes, ils avaient été plus avec un propos politique ou un propos artistique. Et je pense que R.O.M. vient de ce moment-là. Et, par exemple, je me souviens, ce qui m'a marqué, c'est que Michael Stipe, sa vie a changé le jour où il a entendu « Roses » de Batisnef. Et je pense que c'est ça, c'est elle-même qui était poétesse et qui est devenue chanteuse de rock, même si c'est une grande fan de plein de musiciens. Je pense que c'était ce moment-là de la musique, en fait. Et ça a donné quelque chose de très original, parce qu'ils n'étaient pas... Il y a des influences, mais c'était pas, l'idée, c'était pas de suivre des influences. Comme aujourd'hui, où les groupes disent « Bon, j'écoute ça,
ils sont moins
tel, tel, voilà. »
C'était pas forcément que musical, je parlais tout à l'heure de... d'un grand vieil artistique où Michael Stipe était en fac, en fac d'art, et du coup, la peinture... la photographie, la sculpture nourrissait énormément en fait.
La littérature, parce qu'on parlait des textes, le cut-up de Ginsberg, qui était assez populaire dans la musique. Hein, le fait que les textes, ça peut être un texte qui est coupé en morceaux et reconstitué sans avoir un sens linéaire. Ça, c'est un truc qui parlait à Michael Stipe, je pense.
Je propose qu'on fasse une deuxième pause musicale, cette fois-ci avec R.E.M., mais en musique enregistrée. Okay. C'est pas Yann qui va nous l'interpréter en live. Parce que celui-ci, ça s'appelle Radio Free Europe. C'est extrait de Murmure et c'était sorti en 1983. Premier album du groupe américain.
Yeah.
Le groupe s'appelle REM, le morceau que vous venez d'entendre à l'instant s'appelle Radio Free Europe. Il est extrait de leur premier album Murmure, sorti en 83. Mes invités ce soir, c'est Thierry Jourdain, justement, pour parler de REM et My North Eye, qui nous jouera encore quelques titres en live dans l'émission. On va parler des débuts de REM, Thierry. Ils se font comment, les débuts sur scène, alors que le Quatuor n'a pas encore de nom?
Ouais, alors même en complément, en fait... Radio Free Europe, non seulement c'est sur le premier album, le premier titre, mais c'est aussi leur premier 45 tours.
Leur premier 45 tours.
En 1981. Alors, du coup, leur début se fait par un hasard total, comme on a pu évoquer tout à l'heure, la rencontre entre Peter Buck et Michael Stipe dans un disquaire. Leur premier concert, en fait, se fait de manière complètement improvisée et non prévue, en fait. Voilà, une de leurs amies qui pourrait être. Ta confrère, en fait, qui animait une émission de radio à Athènes en Géorgie, a invité, en fait, tous ceux qui souhaitaient, en fait, participer à une grande soirée pour son anniversaire à venir jouer. Et elle a demandé, en fait, à toutes les personnes qu'elle connaissait de venir interpréter des titres. Ces quatre gars-là qui se connaissaient pas forcément, donc il y avait d'un côté Peter Buck, Michael Stipe, et de l'autre Bill Berry et Mac Mills, en fait, se sont réunis pour inventer, créer quelques morceaux et pas mal de reprises pour un peu fêter l'anniversaire de leur ami. Et ils avaient même pas réfléchi, en fait, au moindre nom de groupe. Donc ils sont montés sur scène en avril 1980, sans savoir comment ils allaient s'appeler, sans savoir qu'ils allaient rejouer ensemble, même pas une autre fois que cette fois-là. Et c'était un grand succès, ça a beaucoup plu, ça a déclenché des tonnerres d'applaudissements, des rappels à n'en plus finir, et ça a été finalement un des groupes de la soirée. Ça a été celui, en fait, dont tout le monde s'est rappelé, et à juste titre.
On peut dire la ville d'Athènes, c'est aussi la ville des B52, des B-52s.
Ouais, c'est okay. Ça pour les plus connus, effectivement.
Mais là, on peut revenir brièvement sur le nom du groupe, trouvé donc dès le début et resté inchangé tout au long de leur carrière. REM, pour quelle raison? Ça a deux significations.
Ben ça s'arrête pas sur les hasards. Alors après, il faut aussi en prendre et en laisser avec ce que dit Michael Stipe, c'est que des fois la réponse est pas forcément toujours la même aux questions qu'on pose. A priori, ça serait un jour il a fallu trouver un nom. Il a ouvert un dictionnaire, il est tombé sur cet acronyme REM, Rapid Eye Movement, qui est le mouvement oculaire rapide des yeux. En fait, c'est au moment du sommeil paradoxal, là où on est endormi de la manière la plus intense, et là où techniquement la phase est propice au rêve.
Et pourtant, le sous-titre de ton livre, c'est Remember Every Moment.
Ouais.
Et il a été choisi comment, ce titre?
C'est une très belle phrase, en fait, qu'a dit la grand-mère de Michael Stipe sur son c'est pas très gay, sur son lit de mort. Et puis ça faisait écho aussi parce que j'avais envie de me rappeler chaque moment aussi, avec lesquels REM m'ont accompagné. Et puis je trouvais ça plutôt rigolo de pas forcément mettre la signification première du groupe en sous-titre. Quand sa grand-mère, en fait, était presque au moment de décéder, en fait, elle a tenu la main de son petit-fils Michael Stipe, et puis elle lui a dit: est-ce que tu sais ce que ça veut dire pour moi, REM? Et il l'a regardé de manière dubitative, et elle lui a dit: Remember every moment, rappelle-toi de chaque instant. Et c'est ce que j'essaie de faire avec ce livre, c'est me rappeler de chaque instant à la fois du groupe et puis après en coulisses de la mienne de vie.
Il y a rien à essayer de comprendre dans ces chansons, hein. Ça, je reprends un extrait de ton livre. Il faut juste ressentir le chant flou de Michael Stipe, qui aurait pu être un obstacle au succès du groupe. Ça l'a pas été.
Non, alors bon, c'est plus compliqué que ça aussi. C'est pas aussi simple que ça. C'est jamais aussi simple que ça. C'est pas. Il faut pas essayer de comprendre, mais en tout cas, faut pas essayer de l'analyser. C'est lui qui le dit. Il faut pas l'analyser de la manière linéaire et habituelle. Donc, il y a d'autres moyens d'appréhender leur musique et je parlais tout à l'heure de la ressentir. Et c'est difficile à dissocier, en fait, la musique du chant, de la voix, des paroles d'REM. En fait, c'est assez rare à quel point c'est un tout. Et quand on enlève le moindre ingrédient, en fait, c'est plus du REM. Même si, effectivement, la voix fait le lien. Donc oui, ça aurait pu être un frein parce que c'est obscur, parce que les premières chansons sont, on comprend pas bien les paroles. C'est pas pop, en fait. Bien à l'inverse de ce qui a fait leur grand succès en 91-92 sur des chansons plutôt mélodiques et on reprend en chœur les refrains. Les premières chansons sont vraiment très sombres et très obscures. Du coup, il n'y a absolument rien de, de, de vendeurs au début, à commencer par leur propre look, par leur propre personnalité, où le chanteur tourne le dos au public, où il faut même pas être là quand il enregistre dans sa cabine d'enregistrement les premiers titres en studio. Donc ça tient presque du miracle, en fait, à la fois que les disques existent et que le groupe est tenu aussi longtemps, en tout cas les premières années.
Alors l'album Reckoning, qui est sorti en 1984, c'est le dernier disque mystérieux du groupe. Quel changement de cap va marquer REM après cet album?
Peut-être le fait d'avoir autant tourné les 3-4 premières années de son existence, où il y avait déjà assez rapidement une fatigue, en fait, et puis il y a eu l'Europe, le troisième album. Donc après Reckoning, il a été enregistré en Angleterre, une période, je sais pas s'il y a une période plus pluvieuse qu'une autre en Angleterre, mais en tout cas l'enregistrement vraiment s'est passé dans la grisaille, sur le fond et sur la forme, et du coup, comme je le disais tout à l'heure, aucun album ne ressemble vraiment à l'autre. Les changements d'écriture se sont faits de manière naturelle, en fait. L'évolution de leur propre vie a fait que les influences musicales ont évolué, que les influences d'écriture aussi ont évolué, et puis voilà, le troisième album est beaucoup plus emprunt, en fait, de la mythologie sudiste des États-Unis, avec beaucoup de références géographiques, littéraires. Je pense qu'il n'y a pas forcément de raison, mais il y a surtout une volonté de jamais faire la même chose chez eux.
Alors en 87, on va pas passer tous les albums de REM en revue, parce qu'on a eu qu'une heure, parce que ce serait trop, et parce qu'il y en a beaucoup. En 87, REM sort l'album Document. Est-ce qu'on peut dire que cet album va annoncer la scène rock industrielle, eux qui ont quand même annoncé la scène rock indé déjà au départ, et par la suite, est-ce qu'ils vont encore être les premiers et des précurseurs d'une scène qui va commencer à germer?
Quelque part, oui, en fait, sans forcément y réfléchir, ils ont amené un certain rock indépendant à travers le rock alternatif des années 80, et puis sur Document, il y a une chanson, la première chanson d'ouverture qui s'appelle Finest Work Song, qui est une chanson, en fait, qui démystifie complètement le mythe du rêve américain à travers l'aliénation au travail, à travers l'usine, et puis il y a une utilisation des sonorités avec des guitares très stridentes qui peut rappeler des machines, et puis le travail à la chaîne. Donc et c'est ce qui fait, en fait, c'est ce qui constitue le rock industriel des années 90. Donc quelque part, ils ont fait du rock industriel avant l'heure, et voilà comme Monsieur Jourdain, et qui faisait de la prose sans le savoir.
Yann, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'album Document? Est-ce que c'est est-ce que t'as l'album préféré du groupe REM?
Document, c'est pas le premier que j'ai écouté. J'ai écouté Out of Time, comme tout le
monde. Comme tout le monde, oui.
Mais j'avais peut-être fait une cassette de Document, parce que à l'époque, on faisait des cassettes.
Ouais, je me rappelle bien ça. Ça revient, voilà, d'ailleurs.
C'était une cassette d'une cassette, voilà. Donc, oui. C'est pas mon album préféré, mais moi, j'aime bien le premier, Murmur, qu'on m'avait, après, plus tard, dans les années 90, quand j'étais étudiant, j'étais assistant dans un collège anglais, il y avait un copain qui s'appelait Romuald qui m'avait offert Murmur. Donc, c'était un grand fan de REM, donc j'ai une petite dédicace sur mon CD. Donc, voilà. C'est un disque que j'aime beaucoup. Voilà.
Alors, on parlait de Michael Stapp tout à l'heure. Les chansons sont le reflet de la personnalité du chanteur, souvent, presque toujours. Est-ce quel type de personnalité, Michael Stapp ?
Très énigmatique. C'est quelqu'un qui a jamais voulu être devant tout en s'y mettant, en fait. Donc c'est un peu le paradoxe et l'ironie du sort. Tout à l'heure, tu disais que assez rarement personne sortait comme ça du groupe. Et ben, malgré lui, en fait, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne les devants et qui réponde aux interviews. Et finalement, il y a eu beaucoup de fantasmes et d'invention autour de lui, la célébrité, en fait, a été plutôt un fardeau, et il a beaucoup fui, en fait, tout ça, et finalement il s'est fait prendre à son propre piège de vouloir vivre un peu caché, sans vouloir forcément faire des mystères, mais ça a vraiment alimenté, en fait, toute une espèce de fantasme autour du groupe sur sa sexualité, sur ses engagements, sur qu'est-ce qu'il faisait dans le privé. Après, voilà, il a essayé, je pense, d'être toujours intègre et puis honnête envers son groupe, envers ses fans et envers lui, pour commencer. Mais ça reste quand même une énigme, en fait. Même quand quand on lit ses interviews ou quand on l'interview, en fait, je pense que la réponse, en fait, vaut pour le moment même où il la donne. Et ça serait pas forcément la même si on lui reposait la même question le lendemain ou le mois suivant.
1, 2, 3, 4. You come to me with positions. You come to me with excuses ducked out in a row. You wear me out. You wear me out. We've been through fake breakdown, self-hurt, plastics, collections, self-help, self-pain, the ST psychics, fuck all. I was central, I lost control, I lost my head, I need this, a paperweight, junk garage, wind, rain, a honeypot, crazy, all the lovers have been tagged. A hotline, the one it had, it's crazy what you could have had. It's crazy what you could have had. It's crazy what you could have had. I need this. I need this. It's crazy what you could have had. It's crazy what you could have had. I need this. I need. It's crazy what you could have had. It's crazy what you could have had. I need this.
Merci Yann alias My North Eye. Le titre, on avait dit, c'est
Country Feedback.
Country Feedback, reprise du groupe R.E.M.
Mais waouh quoi! Si j'étais une platine vinyle, je voudrais qu'on joue sur moi Mine of Eye, tellement je l'aime.
Alors, quels sont les... On va revenir à la personnalité de Michael Stipe. Quels sont les sujets qu'il touche particulièrement, ce garçon?
Alors, c'est très varié. Il y a eu certaines périodes où ça a été vraiment la politique, en fait, qui a nourri en fait, son écriture. Les rapports humains, la communication aussi, ou souvent l'absence de communication. On parlait de paroles obscures et c'est pas anodin, c'est parce que je parlais tout à l'heure de jeunes garçons introvertis, timides, c'est que son propre mal-être et difficulté à communiquer, en fait, il le faisait transparaître, en fait, dans sa manière d'écrire. Et je pense que tout à l'heure, en fait, d'ailleurs, c'est chouette quand on se parle, c'est que ça me fait réfléchir en même temps. Et je pense que ce qui a nourri, en fait, l'évolution des chansons d'Eram et son écriture, en fait, c'était tout simplement à partir du moment où il a commencé à s'ouvrir. Et c'est ça qui a fait un peu l'évolution, à mon avis, du style d'REM, c'est que quand il a commencé à assumer un tout petit peu plus son rôle de leader, de frontman, de chanteur, à assumer le fait d'être devant la scène, d'être devant les médias, et ben il a commencé à écrire différemment. Et c'est ce qui a finalement permis d'ouvrir et d'universaliser un petit peu plus, de parler de choses autres que ce qu'il y avait dans sa tête, donc de politique, donc de rapports humains, de couple, d'écologie aussi, car c'est une des thématiques très importantes.
C'est des thématiques voilà. Très universelles, ouais. Toujours d'actualité.
Ouais, complètement.
Plus que jamais même.
Et tout à l'heure, on parlait d'être précurseur en termes de musique, rock alternatif ou rock industriel, mais vraiment, ça a été un des premiers groupes à parler d'écologie, de déforestation, de dérèglement climatique. Enfin voilà, Four Land Me sur Document en 87, c'était bien avant que tout le monde s'empare de cette thématique.
Alors ça tombe bien parce que 88 c'est aussi l'année de la sortie de Green et c'est l'année où le groupe va signer chez Warner. On n'a pas parlé de leur label en début d'émission. Ils vont signer dans une grosse compagnie de disques et ça va changer quoi cette signature chez Warner pour eux ?
Les moyens et donc pendant la première partie de leur carrière ils étaient chez un label indépendant qui s'appelle IRS. Voilà ce qui a nourri un peu leur envie de changer ça a été surtout en termes d'organisation de tournée en fait parce que pendant près de 7-8 ans ils jouaient quasiment toute l'année en fait 300 jours par an partout sur toutes les routes et à revenir dans chacune des villes qu'ils ont conquis voilà au fur et à mesure et ils avaient envie vraiment de sortir d'être mieux distribués c'est-à-dire que quand ils allaient jouer en Europe à l'époque en fait les disques étaient pas forcément là ils étaient pas dans les bacs donc ils jouaient devant des personnes qui connaissaient pas forcément leur musique ou qui pouvaient pas acheter leurs disques et ils avaient envie d'avoir un peu plus de porter mais toujours au service de la musique et puis plus de liberté aussi et puis après bah il y avait forcément plus de moyens et donc des moyens de studio d'enregistrement d'arrangement et tout en ayant quand même une certaine liberté Warner leur promettait une grande liberté en tout cas de choix et de direction artistique.
Et il s'est passé plusieurs années entre Out of Time et son prédécesseur Green pour quelle raison?
La fatigue. En fait, à partir de Green, ils ont fait une véritable pause dans les tournées. La dernière date de la tournée, ça devait être fin 89, et ils avaient déjà commencé en fait à réfléchir et à enregistrer des démos pour l'album suivant. En fait, donc il n'y a pas eu vraiment de pause d'écriture, de composition, mais il y a eu un rapport au temps différent. C'est qu'ils se sont complètement cramé en fait à ne jamais arrêter à finalement pas trop avoir de recul et à réfléchir sur la sortie des disques et des tournées donc là ils se sont dit maintenant on prend le temps après il y a pas eu non plus énormément de temps hein. Out of Time il est sorti en 91 donc finalement ça fait 3 ans
ils sortaient des albums à une époque quasiment tous les ans
avant c'était un album par an
le rythme est plus le même en tout cas que pour les premiers albums. On va faire une pause musicale non pas avec My North Eye mais avec un titre de REM, ça s'appelle Half a World Away.
This could be the saddest dusk you've ever seen. Turn to a miracle. I lie. My mind is racing. As it always will. My hands tired, my heart aches. I'm half a world away. Here my head swarms. Go it alone, hold it alone, hold alone, hold it, go it alone, hold it alone, ho ho ho, ho lonely deeps and hollow, half a world, half a world away, my shoes are gone, life spent. Had too much to drink. I didn't think of you. I guess that's all I needed, to go it alone and hold it alone. Hold along and hold it, blackbirds backwards, forwards and fall. Ho, 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 this lonely world is wasted. Pathetic eyes, high life, blind eyes turn sea. The storm, it came up strong, it shook the trees and blew away our fear. We couldn't go it alone and hold it alone. Hold it alone and hold it. Go it alone and hold it alone. Ho, ho, ho. Go it alone and hold it alone. Hold it alone and hold it. Backwards, backwards, forwards and forwards. Seen turns to a miracle. My mind is racing as it always will. My hands tired, my heart aches, and half a world away. Go.
Et c'était le titre Half a World Away, sorti en 1991 sur l'album Out of Time, qu'a révélé une fois de plus REM au monde entier avec un succès planétaire. Moi, pour ma part, le Losing My Religion, extrait de ce disque, c'était la bande-son de mon adolescence. Un an après, le groupe REM sort l'album Automatic for the People. Quelles sont les thématiques qui préoccupent Michael Stipe à ce moment-là?
Alors c'est un album très sombre, pour le coup très très acoustique, qui est empreint de deuil et de perte, de renoncement, un peu à tous les niveaux en fait. Tout à l'heure quand tu me demandais d'où vient cette phrase « Remember every moment », donc où je te parlais de sa grand-mère, en fait il y a une chanson sur cet album qui s'appelle « Try not to breathe », essaye de ne pas respirer en fait, qui est dédiée à sa grand-mère. « Everybody hurts », c'est... c'est issu d'une discussion qu'il avait avec sa sœur qui était enseignante et qui parlait en fait du suicide chez les adolescents. Voilà, et donc c'est plutôt sur la perte, le deuil, également sur la politique. Il y a une chanson qui s'appelle Ignore Lands, donc voilà, terre d'ignorance en fait, qui a critiqué encore un coup l'organisation, l'administration Bush. Et puis des chansons plus légères, The Sidewinder Sleeps Tonight, en fait, qui est plutôt léger, Man on the Moon, qui est un hommage à Andy Kaufman, mais toujours sur des sonorités très très acoustiques, sombres.
Et alors 2 ans après, ils sortent l'album Monster. Qu'est-ce que REM tente de prouver avec ce disque après le parcours qu'ils ont eu?
Alors prouver, je sais pas, en tout cas se prouver, c'est que ça reste un groupe. Et des amis. En fait, ils n'ont pas tourné pour Out of Time en 91, ils n'ont pas tourné pour Automatic for the People en 92. Donc, les deux plus, alors, je sais pas si c'est les deux plus grands albums, mais en tout cas, c'est les deux albums qui ont le plus vendu de toute leur carrière. Et ils ont fait le choix anti-commercial de ne pas tourner, de ne pas défendre l'album. Et en fait, ils avaient envie de revenir aux affaires et d'en découdre sur scène, de retrouver leur public, en rebranchant les amplis, en sortant les guitares électriques et en se retrouvant sur scène. Donc ils ont fait un album voilà, avec plein d'effets, avec plein de guitares électriques, avec des paroles qui redeviennent très incompréhensibles, très obscures, avec une voix allègrement déformée selon les morceaux, parfois en voix de fossé, parfois bidouillée avec des pédales pour rendre très grave, pour changer même presque sa tessiture de voix. Ils avaient envie de revenir avec quelque chose de complètement différent. Michael Stipe revient alors qu'il était plutôt sur Everybody Hurts en jeune premier séducteur et romantique. Là, il arrive avec une barbichette, crâne rasé, donc un look, enfin voilà, très marginal. Encore un coup très atypique et incompréhensible parce qu'on attendait on les attendait avec un Out of Time 2 et finalement des personnes qui allaient les voir juste en connaissant leurs deux derniers albums se sont retrouvées complètement décontenancées par un album très punk en fait.
Et alors même question pour New Adventures in Ify sorti en 1996, soit deux ans plus tard, le groupe là souhaitait quoi pour ce nouveau G?
Alors à la base de New Adventures in Ify, en fait ils avaient envie de faire un album live de la tournée Monster et donc ils enregistraient toutes les répétitions, toutes les balances et tous les concerts et ils avaient envie en fait ce qui les aurait amusé à la base, en fait, c'était de faire une tournée où en fait chaque soir des nouveaux morceaux auraient été joués et un petit peu plus chaque soir et qu'à la fin de la tournée finalement les gens venant les voir se retrouvaient avec que des chansons complètement inédites et sur aucun album. C'était un peu le cas parce que sur les derniers concerts de la tournée, en fait, il y avait 7, 8, 9 morceaux nouveaux inédits qui étaient créés pendant les balances. Et donc du coup, en fait, ces morceaux-là se sont retrouvés sur cet album New Adventure in Hi-Fi. Donc c'est un témoignage aussi de cette tournée très longue et très compliquée en fait qu'a été Monster.
Et alors en 97, le batteur, il va y avoir un sacré changement. Le batteur Bill Berry quitte le groupe et RM continue l'aventure en trio. Le départ de Bill Berry, il va changer quoi pour les trois autres musiciens du groupe?
Eh ben vraiment une manière de composer en tant qu'artiste et puis une manière aussi de s'entendre en tant qu'ami. Toi, Tyrion, qui est anglophile, tu vas pouvoir nous parler de cette expression. En fait, c'est le guitariste Peter Buck qui me disait on s'est retrouvé comme un three-legged dog, un chien à trois pattes. Ça,
bon, ouais, ça va.
Merde, j'ai même pas besoin de toi sur ce coup-là. Je t'ai demandé. Et c'était le cas, parce que du coup, Bill Berry, en fait, finalement, on n'imaginait pas à quel point il pouvait vraiment lier un petit peu toutes ses personnalités et apporter aussi en termes de composition énormément au groupe. Donc c'était le batteur, mais du coup c'est lui qui a apporté le riff de Man on the Moon, c'est lui qui a apporté l'arpège d'Everybody Hurts, c'est lui qui a apporté le piano sur Perfect Circle. Indépendamment de son rôle de batteur, en fait finalement il a apporté aussi en termes de composition, et bien côté très taiseux, mais en même temps important en fait pour la cohésion du groupe. Donc il a fallu que vraiment ces trois gars là finalement réapprennent à se parler et à composer ensemble. Donc ça n'a pas été un album facile et finalement l'album est un des albums les moins cohérents et les plus compliqués, déjà parce qu'il y avait plus de batterie mais de la boîte à rythme, donc il a fallu apprendre à recomposer, à maîtriser et après finalement à rejouer en live après un album qui n'était pas du tout fait pour les concerts, parce qu'il n'était pas question forcément qu'il tourne pour cet album-là. Mais il a fallu tout arranger en fait pour une vraie batterie et des morceaux en fait qui étaient difficilement jouables en concert puisque c'était pas du tout l'idée à la base.
Et alors en 2001, là on passe assez vite. En 2001, ils sortent Reveal. Comme ça, très vite, quelles sont les caractéristiques aussi de cet album?
Très très pop. C'est pas forcément l'album le meilleur album, loin de là même. Beaucoup d'emprunts ou d'hommages aux Beach Boys là pour le coup, avec beaucoup d'harmonie vocale très très pop, très très sucré. Voilà, c'est un album oubliable mais qui comporte quelques titres un peu incontournables dans les dernières tournées en fait du groupe.
En 2004, ce sera Around the Sun qui reçoit un accueil mitigé aussi,
ouais,
du coup,
très mitigé.
De la part de la presse. Aussi bien de la part de la presse que de la part du public, pour quelle raison?
J'ai pas compris, parce que moi j'ai bien aimé, je suis un des seuls à l'avoir aimé en fait.
C'est tellement subjectif la musique aussi.
En fait, ils voulaient vraiment faire un énorme brûlot anti-Bush, en fait, quand Bush s'est fait réélire. Et du coup, finalement, ça a été des morceaux reçus comme trop calmes en fait, et pas à la hauteur de ce qu'ils voulaient dénoncer et de la colère en fait qu'ils annonçaient avant la sortie de l'album. Bon, moi je trouve que c'est un album... plutôt un bel album, et puis la tournée qui a suivi en 2004-2005, c'est une tournée assez incroyable où pour le coup ils ont complètement rejoué des vieux morceaux passés aux oubliés depuis des années, revisité énormément de titres et ont commencé à se réamuser en fait sur scène, voilà, parce qu'ils ont pas, pareil, ils ont repas tourné pendant de nombreuses années en fait. En 2001 ils ont pas tourné, ils ont fait une tournée pour un best-of en 2003 mais sans nouveau disque, donc 2004-2005, c'était en gros la plus grosse tournée depuis Monster en 94-95 en fait, parce que la tournée de Hop était très compliquée, très problématique à réapprendre à jouer ensemble. Donc c'était un vrai plaisir de fan de les revoir jouer sur cette tournée-là en tout cas.
Et en 2008, ils sortent l'album Accelerate. Alors il y a quelque chose, il y a une anecdote. Enfin, on va parler de. Et c'est Vincent Moon qui va réaliser les vidéos qui vont annoncer la sortie de ce nouvel album. On peut en parler, ça, de Vincent Moon, comme ça, le présenter très brièvement, et de ce que ça va inspirer à Michael Stipe, là, sa manière de filmer, de construire les clips.
C'est celui qui a inventé, avec plusieurs amis collaborateurs, la Blogothèque, et puis cette manière de faire des sessions acoustiques, improvisées, un peu n'importe où, dans des lieux non conventionnels, de réinventer la musique et le rapport à la musique. Et il a fait des sessions, en fait, avec R.E.M. Avant la sortie, l'écriture de cet album... de cet album-là, et du coup, ça a nourri aussi une manière autre de refaire de la musique plus instinctive et plus instantanée. Et puis après l'échec, effectivement, critique et public un peu de Round the Sun, ils avaient envie de revenir avec quelque chose de très brut, de très direct, avec des chansons très courtes, très rock, très saturées, très électriques, et puis de repartir rapidement en tournée aussi.
Et alors on va, dernier album, c'est 2011, à l'heure où vous écoutez l'émission Tour de Piste, bah ça fera 11 ans jour pour jour que le groupe REM s'est séparé, ils sortent Collapse Into Now. Qu'est-ce que le groupe voulait et qu'est-ce qu'il ne voulait pas avec ce dernier disque?
Bah, il avait déjà les seuls à savoir que ça allait être le dernier disque, c'était les trois membres du groupe, Peter Buck, Mac Mills et Michael Stipe, eux savaient que ça allait être le dernier album, que ça allait être la fin. Ils en avaient parlé à personne. Et l'album en fait est rempli en fait de clins d'œil et de références à un au revoir en fait. À commencer par la pochette, à commencer par certains titres. Donc c'était un au revoir en fait aux fans. Et puis sur cet album-là, il y a beaucoup d'invités aussi. Donc ils avaient envie de se faire plaisir. Voilà, ils avaient envie. Aussi de boucler la boucle en invitant Peaches, Eddie Vedder, Patti Smith, des gens qui ont compté humainement et artistiquement pour eux.
Et alors, quel héritage REM transmet aux générations d'artistes qui vont suivre?
C'est assez compliqué en termes d'héritage parce que ça reste un groupe à la marge et c'est pas forcément un groupe qui est cité comme une référence ou comme fondatrice pour beaucoup de groupes, mais c'est un groupe qui, je pense, comme pour moi très modestement, qui a quand même compté en toile de fond. Pour beaucoup d'artistes, pour beaucoup de groupes. Les concerts hommages aux États-Unis, en fait, n'arrêtent pas. Le groupe, enfin, les membres du groupe Restés Amis, en fait, accompagnent chaque ressortie d'albums, des sorties anniversaires, en fait. Donc, c'est un peu la mode, mais ils les agrémentent de bonus, de chansons inédites, de choses. Voilà. Donc, il y a toujours un engouement, une envie. On leur pose toujours la question, est-ce que vous allez vous reformer? Et ils ont juré de ne jamais se reformer. Jamais. Je leur fais suffisamment confiance pour être des têtes de pioche pour,
ils ont l'air assez intègres, quoi.
Pour tenir ça. Ouais, vraiment une véritable intégrité. Et jamais ils reviendront, quoi. En tout cas, pas sous le nom
pas
REM.
Pas sous le nom REM. Est-ce que t'as des remerciements? Alors, c'est passé très vite, hein. On l'a dit, comme ça, hors antenne, pendant qu'on écoutait les titres, cette émission, elle est passée. Ça a été une fulgurance. On arrive déjà à quelques minutes de rendre l'antenne. T'as des remerciements à faire?
Déjà, j'ai un remerciement à mes deux super amis, Yann et Thomas, de m'accompagner et de me supporter depuis pas mal de temps. Ils étaient avec moi pour défendre mon livre sur Elliott Smith. Et puis là, du coup, ils ont redit oui pour R.E.M. Je pense qu'on a quelque chose qui relève un peu d'R.E.M. C'est-à-dire que on se nourrit les uns les autres et puis on se respecte et on s'apporte beaucoup. J'aimerais remercier mon père qui m'a toujours dit oui à tous mes achats de disques. Et du coup, s'il m'avait pas dit oui un jour pour acheter Out of Time ou toutes sortes de disques, je serais pas devenu le collectionneur maladif et compulsif que je suis aujourd'hui. Et puis j'aimerais remercier Christelle de me supporter depuis 3 ans et d'être toujours présente là, pas loin, dans mon cœur et partout ailleurs.
Et moi, je vous remercie, les garçons. Yann Lafosse, alias Minor's Eye, et toi, Thierry Jourdain.
Et toi, pardon, Laurent, d'avoir... je te remercie. Excuse-moi, je me manque.
D'avoir répondu présent à l'invitation de l'émission Tour de Piste. Yann, est-ce que tu voulais, parce qu'on t'a moins entendu, forcément, on a entendu ta voix et ta guitare dans le cadre d'une chanson. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur le groupe REM?
Juste... pour le livre de Thierry, je pense qu'on peut aussi le lire comme une quête, parce que moi je connais une photo qui est, je crois, au recto du livre où Thierry est dans un ascenseur à New York, à Manhattan, avec Michael Stipe, au début des années 2000, je ne peux pas vous dire la date.
C'est en 2012.
Et donc, ça devait être déjà fou de rencontrer Michael Stipe, mais 5 ans de travail pour avoir finalement au téléphone Michael Stipe, je pense que c'est en tant que quête, c'est déjà très intéressant. Moi, je trouve que c'est un des intérêts du livre.
Et on vous retrouvera au 106 à Rouen le 28 septembre à 20h. On sait bien sûr toi, Thierry, et puis Yann, et aussi le musicien El Strange, Thomas Dubois, hein, qui fait partie de l'aventure pour offrir un contrepoint musical à ta conférence, ta rencontre.
Ta rencontre, ouais.
Il faut que ce soit vivant, c'est pas un cours magistral sur l'histoire d'un groupe de rock.
Surtout
un grand merci à tous les deux. On se quitte avec une dernière reprise de REM par My North Eye. Je te laisse annoncer le titre, Yann.
On s'appelle The One I Love.
Merci de votre écoute. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans 15 jours à 20h sur la radio Principe Actif. Bonne soirée.
This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prayer to occupy my time. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple to occupy my time. This one goes out to the one I love.